Décryptage.
Sébastien Duhamel.
C'était tout à l'heure en Normandie.
Our bond is unbreakable.
Notre lien est indestructible. Les mots de Donald Trump à l'égard de la France, des mots prononcés lors du 75e anniversaire du D-Day. Un peu plus tôt, c'est Emmanuel Macron qui faisait un appel du pied.
Nous ne devons jamais cesser de faire vivre l'alliance des peuples libres.
Mais derrière ces déclarations, derrière la façade, si l'on gratte un peu le vernis, continent africain, Moyen-Orient, autant où en est la coopération militaire franco-américaine en 2019? C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Bonsoir à tous, bienvenue dans Décryptage. Et pour en parler avec nous, en studio, Elie Tenenbaum, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, auteur de Partisans et Centurions, une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle, c'est aux éditions Perrin. Bonsoir Elie Tenenbaum.
Bonsoir.
Un mot d'abord sur ces commémorations d'aujourd'hui. Je le rappelle, les deux présidents sont les chefs de guerre, les chefs des armées. Et 75 ans après le débarquement des Alliés sur les plages normandes, Emmanuel Macron a parlé de pacte séculaire qu'il faut renouveler. Alliance des peuples libres, on vient de l'entendre. Donald Trump évoque, lui, un lien indestructible. Alors, que vous inspirent ces commémorations? Elles sont, selon vous, à l'image de la coopération franco-américaine?
Oui, mais par-delà, on va dire, les lieux communs qu'on entend et qu'on a entendu effectivement à travers les siècles, sans remonter au marquis de Lafayette,
voilà. Qui a aidé pour l'indépendance américaine il y a deux siècles.
1776, et le général Pershing en 1917 et 1944, etc. On a effectivement aujourd'hui même une coopération militaire et stratégique entre la France et les États-Unis qui est particulièrement étroite, qui est probablement plus étroite aujourd'hui qu'elle ne l'a été au cours de ces deux siècles et demi d'histoire d'alliance commune et qui se manifeste dans un certain nombre de théâtres. On pourra les évoquer, oui, évidemment, enfin. L'Afrique, le Moyen-Orient, l'OTAN, vous l'avez dit, et aussi de manière plus structurelle, dans les échanges de renseignements, des partenariats de fond entre armées, même si ça n'empêche pas des tensions ou des désaccords qui peuvent exister, c'est bien normal.
Il y en a eu
entre des alliés, il y en a eu. Globalement, on peut dire que effectivement, ce ne sont pas des mots vains que de dire que la France et les États-Unis sont demeurent aujourd'hui dans les faits, au quotidien, des alliés avec une coopération particulièrement étroite.
Justement, on a un exemple récent dans l'actualité. Deux touristes français qui avaient été enlevés au Bénin, leur chauffeur a été tué. Eux seront finalement libérés au Burkina Faso, c'était le 10 mai dernier, il y a moins d'un mois. Donc, libérer ces touristes français aux côtés d'une ressortissante sud-coréenne et d'une américaine. Je vous propose justement d'écouter la réaction du président Trump après cette libération. Il s'exprimait depuis la Maison-Blanche.
Les Français ont fait un super boulot, nous apprécions beaucoup et je le leur ai déjà fait savoir. Nous avons collaboré avec eux en matière de renseignement et nous avons pu ramener cette personne. Et nous remercions les Français, super boulot.
Voilà, super boulot, nous dit le président américain Donald Trump. On se souvient que des militaires français ont perdu la vie lors de cette opération. C'est une coopération réussie justement cet exemple?
Oui, alors bon là, en l'occurrence, il reste toujours des zones d'ombre sur l'identité exacte de cette américaine et la nature éventuellement de la coopération entre la France et les États-Unis sur cette opération en particulier.
Justement, Donald Trump parle de renseignement.
Oui, absolument. Il y a du renseignement, mais je pense que par-delà, enfin, on peut l'évoquer. Il y a effectivement des échanges de renseignements qui sont très intenses. Ce que cet exemple montre et qui est assez juste à mon avis, c'est le sentiment réciproque pour les États-Unis. Que la France est un allié solide, un allié sur lequel on peut compter quand il se passe quelque chose qui n'était un coup dur. On sait que globalement, dans la mesure de ses moyens, la France sera aux côtés des États-Unis. Elle l'a démontré à plusieurs reprises, et ce depuis, on va dire, l'affaire de 2003 où il y avait eu un désaccord entre la France et les États-Unis sur l'invasion de l'Irak, mais depuis ce moment-là et surtout depuis la réintégration de la France dans l'OTAN en 2007. Il y a véritablement un sentiment qui va du plus haut niveau du chef de l'État jusque vraiment au niveau des opérationnels, des militaires eux-mêmes, de dire que les Français sont des alliés sur lesquels on peut compter. Et c'est vrai inversement du côté français où effectivement les États-Unis assistent la France dans ses opérations militaires. Le domaine du renseignement en est un particulier. La France a aujourd'hui une coopération particulièrement étroite dans le domaine du renseignement. Ce qui n'est pas un vain mot, puisque le renseignement ne se partage qu'entre alliés de confiance et de très haute confiance, puisqu'il s'agit évidemment de données très sensibles. Il existe une communauté américaine dite des Five Eyes, qui réunissait les alliés les plus proches, Grande-Bretagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. La France ne faisait pas partie de cette communauté des Five Eyes du renseignement, mais aujourd'hui, les spécialistes estiment que en fait la nature des renseignements qui sont échangés entre la France et les États-Unis est à peu près du même niveau, c'est-à-dire vraiment du cercle des plus proches et des partenaires anglo-saxons dans le domaine du renseignement, que ce soit du contre-terrorisme. Il y a un protocole d'échange qui avait été signé en mars 2016 entre les États-Unis et la France après les attentats de novembre 2015 pour renforcer encore plus l'échange de renseignements dans le domaine du contre-terrorisme, dans le domaine du renseignement technique.
Et ça a fonctionné?
Absolument. Dans le domaine du renseignement technique, du renseignement d'origine spatiale, d'origine électromagnétique, des écoutes, là où les États-Unis ont, par l'énorme importance de leurs moyens, évidemment, des quantités d'informations, et on le sait bien.
Les moyens de surveillance massifs, effectivement, les États-Unis.
Ça a pu poser, d'ailleurs, des sujets de tension, parce que les États-Unis ont aussi écouté leurs alliés.
Oui, il y a eu des scandales, notamment.
mais en tout cas, ils partagent les renseignements dont, sur le plan opérationnel, on a le plus besoin, et c'est vrai que c'est tout à fait important.
Et justement, au-delà du renseignement, il y a de l'opérationnel, donc,
oui.
Je voyais sur le site du ministère, notamment de la Défense français, il se vantait il y a quelques jours d'une opération d'entraînement conjoint à Djibouti, où en gros les militaires français et les Américains s'entraînent sur les moyens des autres, pour découvrir les moyens matériels des autres. Ça veut dire qu'au-delà du renseignement, on se prépare quand même en 2019 à de l'opérationnel conjoint?
Oui, absolument. Moi, je dirais que sur les grandes zones de coopération militaire entre la France et les États-Unis, j'en vois trois. Le renseignement en premier, c'est certain. Ensuite, tout ce qui est ce qu'on appelle le C2, le commandement et le contrôle, c'est-à-dire l'aide aux des avions qui vont aider à contrôler l'espace de bataille, des télécommunications, tout un tas de moyens techniques que la France possède, mais pas forcément dans les moyens suffisants pour coordonner. Et ensuite, tout ce qui est logistique, le ravitaillement en vol pour des avions, les transports lourds avec des C5 Galaxy, par exemple, qui sont des gros avions cargo dont la France manque, même si avec la 400M elle en a maintenant quelques-uns. Voilà, ça c'est des moyens qui sont pas forcément très visibles, mais qui en fait rendent possible une opération. Il est clair que la France ne pourrait pas opérer aujourd'hui au Sahel telle qu'elle opère aujourd'hui si elle n'avait pas le soutien des Américains. Ça ne voudrait pas dire qu'elle ne pourrait rien faire, mais ça changerait structurellement la nature, la physionomie des opérations, si on n'avait pas ce soutien et logistique et opérationnel américain derrière. Et ensuite, sur des scénarios de plus haute intensité, bon, là c'est des coopérations, on va dire, côte à côte, en fraternité d'armes, mais et comme ce qu'on voit par exemple sur le théâtre du Moyen-Orient.
Mais justement, j'allais y venir, justement, parce qu'on a vu le continent africain, le Sahel. Autre exemple, bien sûr, il y a eu le Moyen-Orient tout dernièrement contre l'organisation État islamique en Syrie, la coalition internationale. En fin d'année dernière, justement, Donald Trump avait évoqué un retrait des troupes américaines. Il avait expliqué son choix, d'ailleurs, lors d'un déplacement en Irak. Il s'était exprimé devant les soldats américains et il s'adressait aux pays riches. Écoutez le président américain.
Les pays riches ne peuvent pas s'attendre à ce que les États-Unis paient l'essentiel de leur défense. Donc voilà l'histoire, c'est très simple. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à être les gendarmes du monde sans être payés en retour dans la plupart des cas. S'ils veulent que nous menions la bataille, ils doivent aussi en payer le prix, y compris financièrement. Nous ne sommes pas des pigeons. C'en est fini, les gars, d'être pris pour des gogos. Et les gens n'attendent pas de nous que nous soyons des gogos.
We're no longer the suckers, folks. and people aren't looking at us as suckers.
Voilà, les mots un peu crus hein, du président américain. Les gens n'attendent pas de nous que nous soyons des gogos. C'est ça au sein de cette coopération, les États-Unis, des gogos.
Alors là, évidemment, derrière le langage un petit peu propre au président américain actuel, en fait, se cache un reproche qui est beaucoup plus ancien, qu'on avait sous Obama, qu'on avait sous Clinton, et finalement qu'on avait même pendant la guerre froide, ça remonte à McNamara et à Kennedy, reproche finalement de dire que les Européens, dans leur ensemble, la France inclus, et la France n'est certainement pas le moins bon élève de la classe européenne, ne dépense pas assez dans la défense, et finalement c'est la question de ce que les Américains appellent le burden sharing, le partage du fardeau, un partage équitable, en disant oui, nous sommes une alliance, mais dans une alliance, il faut que chacun contribue à la hauteur de ses moyens et qu'il n'y ait pas de passagers clandestins. Et c'est vrai que là, il y a un objectif des pays de l'OTAN d'un effort de défense qui a été fixé de manière un peu arbitraire à hauteur de 2% du produit intérieur brut. La France n'est pas loin de ces 2%, mais depuis plus de 10 ans maintenant, est en dessous de ce seuil. Et à ce titre, et pointé du doigt, continue de faire partie du groupe de pays qui est pointé du doigt. Encore une fois, il y a en fait beaucoup, particulièrement dans le haut du classement, hein, en fait, juste derrière le Royaume-Uni et les États baltes qui sont les seuls du côté européen à dépasser ce seuil. Donc en fait, on est dans le haut du classement et en termes de capacité, de compétences opérationnelles, je pense que on est probablement dans les, encore une fois, l'allié ou au moins l'un des alliés les plus solides des États-Unis. Mais effectivement, ça fait partie d'un reproche qu'on entend. Donald Trump le prononce à sa manière.
D'autant qu'on parle d'un gros gâteau, hein. Les dépenses de l'OTAN, ça représentait en 2018 963 milliards de dollars. On peut comprendre que les Américains, qui soient les plus gros contributeurs, ouais, aient envie de mettre un peu moins la main au portefeuille.
Absolument, non, mais ça fait pas d'autant plus que la question de la défense de l'Europe, on parlait voilà de l'Afrique, du Moyen-Orient, mais aussi il y a la question de ce que les gens à l'OTAN appellent le flanc Est, c'est-à-dire la menace russe.
Avec un conflit encore dans l'Est ukrainien, on le rappelle, une guerre de tranchées en ce moment même.
Et un certain nombre de membres de l'OTAN qui sont extrêmement nerveux sur leurs frontières, je citais les États baltes à l'instant, la Pologne, qui demande une preuve de la solidarité euro-atlantique de ce traité de Washington dont l'article 5 rappelle la solidarité justement entre chacun des membres face à une agression, une menace d'agression, et donc effectivement met finalement la France comme d'autres pays au défi, les prend au mot de leurs actes.
Donc la France conserve quand même effectivement une relation privilégiée avec les États-Unis. Quand Donald Trump annonçait son retrait des troupes de Syrie, on se souvient qu'Emmanuel Macron l'appelait au téléphone pour lui demander un petit peu de revenir en arrière. Hein, quelque part, ils avaient évoqué un retrait réfléchi et coordonné. Du coup, Donald Trump avait dit oui, on ira moins vite hein, que ce qu'on avait anticipé. Et Emmanuel Macron avait donné une petite leçon de ce que doit être un allié. Il s'exprimait depuis le Tchad, c'était également en décembre de l'année dernière. Écoutez.
Je regrette très profondément la décision prise en Syrie. Être allié, c'est combattre épaule contre épaule. C'est la chose la plus importante pour un chef d'État et chef des armées. Ça veut dire que vous acceptez que vos soldats combattent et prennent des risques aux côtés d'autres soldats et parfois qu'ils remettent leur vie dans la main des forces alliées. Et donc un allié se doit d'être fiable, de se coordonner avec ses autres alliés. C'est ce à quoi je suis attaché. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons vu ici, chez les soldats américains qui chaque jour travaillent avec Barkhane et qui coopèrent de manière exceptionnelle, en particulier pour mettre à disposition des drones, des forces et des matériels. Je souhaite que cela continue longtemps.
Voilà, le président français qui confirmait donc hein, ce qu'on disait tout à l'heure, pas d'opération française au Sahel sans l'aide américaine, finalement. Mais Emmanuel Macron souhaite que ça dure encore longtemps. On voit également qu'on a des industries qui sont concurrentes. On parle ici d'aide matérielle, d'aide logistique. Est-ce que c'est compatible finalement avec une industrie européenne qui se veut forte et une industrie américaine qui se veut également forte?
Bah, c'est un petit peu le hic et c'est là effectivement où finalement l'alliance entre la France et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis, trouve parfois ses limites, c'est-à-dire que ça a toujours été, depuis 1949, une alliance un petit peu déséquilibrée. On l'a dit, à la fois, les Américains nous reprochent de ne pas payer assez, de ne pas dépenser assez sur notre défense, et en même temps, ça les arrange bien dans la mesure où ils ont, en l'espèce, dans le marché européen, un marché captif sur l'industrie de défense. La France fait de, à ce titre, figure un petit peu de joueur à part, puisque voilà, l'héritage du général de Gaulle et d'une volonté d'indépendance ou au moins d'autonomie stratégique nationale est important, et la France tient à maîtriser autant que possible sa chaîne industrielle de son industrie de défense pour posséder ses propres technologies. Et aimerait voir cette logique se développer au niveau européen via une autonomie stratégique européenne. Et ça peut faire peur aux États-Unis.
Et autre chose qui peut-être faire peur aux États-Unis, c'est l'Europe de la défense. Au sein de l'Union européenne, ça c'est un peu un serpent de mer, ça se fait dans la douleur, hein. C'est un sujet un petit peu épineux. Et Donald Trump, lui, ça lui fait peur visiblement, cette Europe de la défense.
Tout dépend. Sur le plan opérationnel, les Américains ont toujours voulu que les Européens sachent s'organiser, coopérer finalement pour simplifier les procédures. Maintenant, c'est encore une fois sur le plan industriel, l'Europe de la défense aujourd'hui, dans ce qui est dans les tuyaux, on parle du Fonds européen de défense, et le Fonds européen de défense, il est précisément censé aider à l'émergence d'une industrie de défense européenne autonome qui puisse finalement proposer une offre alternative en termes de matériel et d'équipement à l'offre américaine qui est quasi monopolistique. Et là, on retrouve aussi le Donald Trump commercial, qui est dans sa guerre commerciale aujourd'hui avec la Chine, mais aussi régulièrement avec les Européens, qui s'inquiète des débouchés de sa propre industrie de défense. Et encore une fois, le marché européen, la France à part, parce que la France est vraiment un acteur à part là-dedans, la France mise à part, le marché européen était complètement captif et continue d'être, sur une large part des segments industriels de défense, complètement captif de l'offre américaine. Et ça, évidemment, ce projet d'une Europe de la défense industrielle et technologique, ça fait peur à Donald Trump et aux Américains en général.
Et Donald Trump qui a quand même affaire à des Européens divisés de toute façon sur cette question-là.
Oui, et pour l'instant il en profite, et on l'a vu au cours d'un certain nombre de contrats, hein, on pense au contrat sur les hélicoptères avec la Pologne, les Franco-Allemands avaient obtenu le contrat finalement sous pression américaine. Ça ne s'est pas fait. Le choix des Belges sur le successeur du F-16, et bon, ils ont opté vraisemblablement pour le F-35 alors que le Rafale était en lice, etc. Donc c'est une question qui revient très régulièrement, savoir est-ce que les Européens vont faire un choix industriel européen ou un choix américain. Et pour l'instant, la division des Européens profite à l'industrie de défense américaine.
Et rapidement, en 30 secondes pour conclure cette émission, donc malgré ces craintes de part et d'autre, malgré ces déclarations un petit peu houleuses ces derniers temps, et ce rapprochement finalement aujourd'hui lors des commémorations, la coopération franco-américaine, c'est une réalité et elle va durer demain.
C'est une réalité, c'est une fraternité d'armes qui s'ancre dans des faits, et c'est probablement ça qui compte le plus.
Très bien. Elie Tenenbaum, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir dans Décryptage. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous avez écrit « Partisans et centurions, une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle ». C'est à retrouver aux éditions Perrin, RFI. Il est 18h, passé de 30 minutes ici à Paris, 16h30 en temps universel. Cette émission, vous pouvez la retrouver, comme la plupart de nos contenus, sur notre site internet RFI.fr et sur nos applications mobiles également. Je vous souhaite une excellente soirée sur RFI. Dans 15 secondes, vous retrouvez un nouveau point sur l'actualité. Merci d'être fidèle à la Radio du Monde.